au sujet de ces choses qui appartiennent à la seconde opération, c'est-à-dire au sujet de l'énonciation affirmative et négative, le philosophe détermine dans le périr monéal. Au sujet de ces choses qui appartiennent à la troisième opération, le philosophe détermine dans les premiers analytiques et dans les secondes analytiques. Donc voyez que le souci de saint Thomas sera donc de ramener la division d'Aristote à la structure qu'Aristote donne dans le Dialogue. Aristote n'a pas fait le passage, saint Thomas le fait. Mais aussi, question de savoir si c'est légitime ou pas légitime. Une question d'ordre historique, de se poser la question. Mais c'est très net chez saint Thomas. C'est très très net que chez saint Thomas, il va montrer que toute la diversité des livres d'Aristote que nous avons vus, je vous ai cité, je ne les reprends pas, je vous ai cité toutes les œuvres d'Aristote au point de vue logique, eh bien, il va essayer d'organiser toutes ces œuvres autour des trois opérations de l'esprit. Les catégories regardent la première opération, le périr monéias regarde la seconde opération, le premier analytique et le second analytique regardent la troisième opération. Alors, dans le commentaire de saint Thomas sur les secondes analytiques, dans le premier, saint Thomas dit ceci. Quiconque discute Aristoteles, il se justifie métaphysiquement. Donc, comme le dit Aristote dans le principe de la métaphysique, dans le point de départ de la métaphysique, génie hominum, génie arché, est rationalis vivant. Donc, le genus hominum, le genre humain, vit de l'art et des raisons. Là, qui caractérise l'homme. L'homme vit de l'art et rationibus, de réflexion. En quoi il semble que le philosophe touche là ce qui est le propre de l'homme, par lequel il diffère des autres animaux. Parce que les autres animaux, justement, ont un instinct naturel qui leur permet d'agir et d'opérer. L'homme, au contraire, il est dirigé par le jugement de la raison dans ses différentes activités. C'est toute la différence entre l'animal et l'homme, et toute la différence entre les animaux et l'homme, les génies familiales, le genre de l'homme, c'est que l'homme est capable de réfléchir. Et cette réflexion lui permet justement d'inventer l'art, voyez le premium qu'Aristote donne au début de sa métaphysique, il invente l'art, et il invente l'art pour se diriger. Et il invente l'art pour être plus efficace. Les deux aspects où la raison intervient. La raison prudentielle et la raison artistique. La raison prudentielle, c'est à l'égard de nos opérations humaines, la raison artistique, c'est à l'égard de l'efficacité. Et alors, à partir de là, saint Thomas va nous montrer et va nous donner une définition de la logique qui est extrêmement intéressante. Il nous montre que la logique, il reprend l'expression, la logique est la science rationnelle qui non seulement est rationnelle du fait qu'elle est selon la raison, la prudence est dite rationnelle parce qu'elle est selon la raison, mais elle est rationnelle du fait qu'elle est auprès de l'acte de raison, au fait qu'elle regarde comme matière propre l'acte de raison. Et c'est pour ça que saint Thomas dira que la logique, c'est l'art des arts. Une expression très intéressante et propre à saint Thomas. Au paragraphe 3, il nous dit ceci. Est-il dit au vu des tours, est-ce art artium, qui a une artur artionie non dirigée. Pour omnes artes procedo. Donc la logique est l'art des arts parce que dans l'acte de la raison, elle nous dirige. Elle dirige l'acte de raison, vous voyez. La raison dirige nos passions. La raison dirige toutes nos activités. Et la logique dirige la raison. Donc elle est l'art des arts. Elle est l'art le plus formel. Hein? Elle est l'art au carré, si vous voulez. Hein? Puisque c'est la raison qui dirige toutes nos activités, et qu'est-ce qui dirige la raison? C'est la logique. Il faut bien comprendre, hein, qu'elle la dirige d'une façon particulière. Il ne faut pas dire que c'est la logique là qui va nous donner le sens de la finalité. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Qu'est-ce qui dirige tout? C'est la finalité. Or, nous sommes dirigés au carré par la logique, donc c'est la logique qui va nous donner le sens de la finalité. Ça, c'est très très faux de dire ça. Il faut comprendre que cet homme a ici prend formellement l'art. L'art ne donne pas le sens de la finalité. Le sens de la finalité est donné par la nature. L'art nous donne le sens des moyens et des voies déterminées. L'art nous donne un ordre rationnel à l'égard des moyens. L'art est ici de l'effort, c'est pas la finalité. Et c'est pour ça que l'art peut devenir rival de la finalité. Il faut prendre ça avec beaucoup de précision. Donc quand il dit « dirigis », la logique dirige l'acte de raison, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette direction de la logique à l'égard de l'acte de raison. La direction de la logique à l'égard de l'acte de raison, c'est de permettre à l'acte de raison d'atteindre avec plus de force, d'efficacité et de certitude ce que représente son bien. Son bien, c'est la vérité. Je m'arrête là, c'est pas la peine. Vous regarderez, hein, si vous avez le temps et si vous le pouvez, parce que c'est quand même intéressant de regarder ce qu'il donne ensuite dans ce premium des secondes analytiques où il reprend à sa manière toute la distinction, toutes les choses d'Aristote. Il dit la partie de la logique qui nous sert en premier lieu, c'est la partie judicative. Elle est dite judicative, parce qu'elle est justement celle qui dirige en premier lieu le jugement. Puis après, vous avez la logique dite analytique, qui dirige le point de vue de la troisième opération, parce qu'elle est résolutoria. Et donc, elle analyse. Alors, il y a la logique de l'hypervirmenéia, il y a la logique des catégories, on l'a vu précédemment, et puis il y a la logique qui va essayer de donner le point de vue de l'analyse. Et alors, dans l'analyse, on va distinguer le point de vue de la forme et de la matière, c'est là où vous trouvez la première fois, je crois, le point de vue de la distinction des premiers analytiques et des seconds analytiques à partir de la logique formelle et de la logique matérielle. Donc c'est intéressant à voir ce qu'il y a ici dans son premium des seconds analytiques. Passons tout de suite, après Saint Thomas, à Octave. Octave joue un rôle extrêmement important en logique. C'est un très grand tournant. On pourrait dire que saint Thomas explicite la pensée d'Aristote, que saint Thomas a un souci de revenir à Aristote et de montrer, alors avec précision, ce que chez Aristote n'était qu'à l'état d'exercice. Octave, à la suite de Henri de Gand, de Don Scott, donc il y a deux sous-jacents à Octave, il ne faut pas l'oublier, il n'a pas inventé ça tout seul. Octave a un souci de revenir à Aristote, mais d'une manière toute différente de saint Thomas. Pour Octave, l'abstraction est un mouvement, et ça je crois capital dans la pensée d'Octave. L'abstraction est un mouvement, c'est un passage du singulier à l'universel. Vous allez retrouver a posteriori, a priori. Ça, c'est pour ça que je vous ai donné Henri de Gand avant. C'est intéressant à voir. Alors, pour Octave, donc l'abstraction, c'est le passage du singulier à l'universel. Le singulier est toujours contingent. Donc, le singulier ne peut que se décrire. Nous ne pouvons pas avoir à l'égard du singulier une véritable science. La science, c'est la science de l'universel. On ne peut pas avoir de science en dehors de l'universel. C'est interprétation d'Aristote, hein, parce qu'Aristote dit que la science regarde l'écaspote. Donc, nous voyons bien chez Octave tout de suite une interprétation de la pensée d'Aristote qui va incliner alors de montrer l'importance de l'universel parce que la logique regarde l'universel et la métaphysique regarde l'universel. Autrement dit, avec cette conception qu'il a de l'abstraction comme le passage du singulier à l'universel, nécessairement, il va voir deux grandes activités d'intelligence.
L'intelligence qui décrit à partir de l'expérience. Je n'ai l'expérience que du singulier. Et je décris le singulier. Mais alors, il ne peut plus y avoir que des lois à l'égard du singulier. Des lois de l'antérieur et du postérieur. Pas plus. Il y aura une certaine science, mais qui restera toujours liée à la contingence. Et c'est vraiment quand l'intelligence saisit l'universel que l'intelligence peut être métaphysique. Donc la métaphysique commence avec la saisie de l'universel. Vous voyez bien. Où se trouve l'universel chez Henri de Gaulle? C'est le possible. Le possible est l'universel. Et la science, a priori, c'est la métaphysique. Donc nous avons la même coupe chez Occam que chez Henri de Gaulle. Et dans Scott, c'est la même chose. Avec une petite nuance. Hein. Il ne faut pas voir trop Don Scott uniquement comme Henri de Gaulle. Henri de Gaulle joue un très grand rôle sur Don Scott, mais Don Scott a le souci de revenir constamment à la postériorité, dans les preuves de l'existence de Dieu. Et ça, c'est très important. Pour lui, sa métaphysique n'est pas uniquement a priori. Sa métaphysique se fonde quand même sur le point de vue du réel. Tandis qu'au contraire, chez Occam, alors chez lui, c'est très net, la distinction est dite d'une façon radicale, c'est que, de fait, l'intelligence métaphysique ne peut être que l'intelligence de l'universel. Parce que c'est l'intelligence universelle. Et donc, il y a identification entre logique et métaphysique. Ce que Henri Kant ne disait pas. Il y a identification. Alors, vous voyez l'importance que ça fait. Vous donnez tout de suite à la logique le statut métaphysique. Et il faut voir que, Occam, nous n'en sommes pas sortis. Le nominalisme a eu une influence sur la pensée qui est extraordinaire. Je crois qu'on ne peut difficilement comprendre même la pensée contemporaine si on ne regarde pas Occam. On est dépendant d'Occam. Alors on répète après, hein, les philosophes répètent. Alors c'est pour ça que c'est important de voir un moment dans la pensée chez les théologiens, évidemment Occam est un théologien. Occam veut donner une nouvelle théologie, et une théologie à base de la logique. Et alors il y aura une espèce de théologie vivante à base du singulier, qui sera les expériences de la vie. On aura, si vous voulez, la réflexion sur la vie, alors ce sera le point de vue singulier. Mais la parole de Dieu, elle atteint le nécessaire, et donc c'est la logique. Vous voyez, la coupure très nette entre le point de vue pratique et le point de vue spéculatif. Le point de vue spéculatif s'identifie avec le point de vue logique. Alors, l'universel, il est dans l'âme. Il existe dans l'âme. Peut-être que dans l'âme, puisque l'universel est produit dans l'âme. Chez Occam, il n'y a plus de concept. L'essentiel du nominalisme, c'est que toute substance est radicalement individuelle et singulière. L'être nous est toujours donné dans l'individuel et singulier. On refuse une nature commune, on refuse une quidité. À ce point de vue-là, il est en opposition avec Henri de Gaulle, qui lui reconnaît le possible et l'aspect quiditatif. Il n'y a plus possible et l'aspect quiditatif, il n'y a plus que l'universel qui est ce que l'intelligence crée au-dedans d'elle-même. L'intelligence fabrique l'universel pour mesurer le réel. Mais l'universel n'exprime pas la quidité, n'exprime pas la nature. Vous voyez comme on est très proche de toute la pensée qu'on retrouvera chez Kant. Le point de vue individuel n'est que descriptif. Je ne peux pas le connaître. De là à dire que le réel, le nous-mêmes, est inconnaissable, ça, il n'y a qu'un pas à dire. Je ne connais pas la réalité profonde. Je connais une série d'accidents. Nous sommes un point de rencontre d'une série de choses individuelles qui existent en nous. Mais notre nature, non. On ne peut pas la connaître, il n'y en a pas. Alors ça, c'est pas encore mieux. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de nature commune. Il n'y a qu'un assemblage d'accidents.
et le singulier, c'est un assemblage d'accidents. C'est pour ça qu'on ne peut que le décrire. Alors, l'intelligence, par besoin de clarification, par besoin de domination, l'intelligence crée l'universel. C'est très vrai que l'intelligence crée l'universel. Et l'universel permet de mesurer toute chose. Et l'universel, alors, sera à la source de tout ce que représentera la métaphysique. Alors, vous voyez, que signifie exactement l'universel ? Le problème de la signification. C'est l'intelligence qui rassemble. C'est l'intelligence qui donnera comme un aspect artistique, c'est l'intelligence très artistique, hein, qui se fait une idée, alors qui permet de classer. Elle classe toute chose et elle mesure toute chose. Mais elle n'atteint plus le réel tel qu'il est. Le réel tel qu'il est, je ne peux que le décrire. Mais l'intelligence peut mesurer et essayer de saisir. On essaiera de voir un peu l'universel chez Occam. Je pense qu'on le verra d'une façon plus précise. Ce qui est important ici, c'est de saisir qu'il y a identification entre logique et métaphysique. Ça me semble extrêmement net, et c'est le partage des eaux qui se fait à partir de là, c'est que la logique est élevée à la dignité de la métaphysique. La logique devient vraiment la connaissance. La connaissance nécessaire est logique. Et la seule connaissance nécessaire est logique. Il ne faut pas avoir autre. Il n'y a plus de contenu objectif métaphysique qui saisit la réalité. Donc le problème de la signification disparaît, il n'y a plus que la fonction. Je crois qu'on peut dire ça. Il n'y a plus que la fonction. La fonction de l'universel qui joue ce rôle si important parce qu'il me permet d'unir des quantités de choses. Grâce à l'universel, je peux faire des synthèses admirables. Pas ? Mais il n'y a plus de problème de signification. La signification par rapport au réel. Il y aurait ensuite, d'une façon toute différente, parce que Occam, c'est le 14e siècle, vous voyez. Alors, chez Bacon, voir la méthode expérimentale, voir le nouveau organome, méthode pour l'interprétation de la nature. Alors, c'est ça qui est très curieux. Chez Francis Bacon, nous trouvons donc ce novum organum qui est la méthode pour interprétation de la nature. Interprétation, l'herméneutique. Hein, traduisons ça dans notre langage moderne, qui est le langage grec. N'est-ce pas ? Alors, méthode pour l'herméneutique de la nature, pour l'interprétation de la nature. Ce sera cet organone nouveau, c'est sa logique, c'est sa méthode. Alors la logique devient méthode, et la logique devenant méthode devient science, et devient le moyen d'interpréter toute chose. Donc c'est vraiment elle qui donne la signification à la science. La logique donne la signification à la science. On ne cherche plus à connaître le réel, on interprète le réel. En fonction d'une méthode que l'intelligence elle-même a réalisée. Et cette méthode, c'est la logique qui nous permet de connaître toute chose. Ensuite, il faudrait nommer Descartes. Oui, ce qui est intéressant dans ce point de vue-là, c'est de voir, encore une fois, comment la logique, qui était au point de départ un outil, devient celle qui prend possession de la vie de l'intelligence. Enfin, la dialectique du maître et de l'esclave. C'est parfaitement expliqué. La logique, c'est l'outil au point de départ. Pour Aristote, c'est l'outil. La logique ne devient plus l'outil, elle devient la méthode et elle s'identifie avec la méthode. Donc, elle devient la chose essentielle. La chose essentielle, c'est la logique. Chez Descartes, il faudrait regarder les Régulets. Il faudrait regarder la méthode aussi. le souci de la méthode chez Descartes. Alors chez Descartes, c'est dit avec manière extraordinairement forte, parce que Descartes est quand même très influencé par le nominalisme. Faut pas l'oublier. Faut pas oublier que les disciples de Descartes, c'était des Suarésiens, et qui avaient de fait des pères jésuites Suarésiens, et qui avaient de fait absorbé en grosse partie le nominalisme. On ne peut pas comprendre Suarez sans le nominalisme. C'est absolument impossible. Le nominalisme s'est introduit là-dedans et a fait partie de la scolastique. Hein? Le nominalisme a pénétré dans la scolastique d'une façon très, très forte. Alors, chez Descartes, n'oublions pas cette affirmation, il vaut beaucoup mieux ne jamais songer à chercher la vérité sur aucune chose que de le faire sans méthode. Donc la méthode est plus importante que la vérité. Donc si la métaphysique est une recherche de la vérité, et si la logique est une méthode, la logique est infiniment supérieure à la métaphysique. Le tour est joué là, hein. Mais il fallait regarder avant comment ça s'est fait, ça s'est porté dans un coup, vous comprenez bien. Mais c'est jouer avec Descartes. C'est la méthode qui passe devant. La méthode scientifique. N'oubliez pas que nos facultés aujourd'hui sont cartésiennes. Une thèse est jugée qu'en fonction de sa méthode. C'est ce que vous le dites, hein. C'est vrai. Et non pas du tout en fonction de son contenu. C'est extrêmement important de comprendre ces choses-là. Ça montre que, de fait, la méthode l'emporte surtout aujourd'hui et qu'on ne juge que cela. On ne juge que cela. On ne juge que le point de vue de la méthode scientifique. Si vous faites à défaut la méthode scientifique, votre thèse ne vaut rien, même si vous avez pensé. On ne regarde pas la pensée. Parce que la pensée est réduite à la méthode. Quelqu'un qui n'applique pas une méthode ne pense pas. C'est Descartes. Ils ne disent pas que c'est des grands, je leur dirais qu'ils sont cartésiens, ils ont horreur, je ne sais pas, mais au fond, c'est exactement ça. Il faut quand même essayer de saisir ces choses-là, essayer de les comprendre, parce que ça fait partie d'une loi, et une loi impérative, il faut passer par là, si on ne passe pas par là, on ne peut pas. Alors, c'est la méthode qui l'emporte. Hein. La méthode est plus importante que la vérité, cette méthode consiste dans des règles certaines et solides, voyez le nécessaire. C'est ça que je voulais citer, le passage d'Henri de Gand. C'est très très important ce passage d'Henri de Gand. Parce que le passage d'Henri de Gand va mettre le nécessaire avant tout. Chez Descartes, c'est la certitude qui passe avant tout. Et la certitude et la nécessité se tiennent. Alors vous avez là quelque chose qui est extrêmement curieux et intéressant à voir. C'est quand même très curieux. Très curieux de voir comment les hommes arrivent à cela. Ils s'enchaînent eux-mêmes. L'intelligence qui s'aliène elle-même avec la méthode parce qu'elle est découverte par elle. Que la méthode soit très importante, que de saisir le nécessaire ce soit très important, c'est bien évident, surtout pour transmettre sa pensée. Parce que je crois qu'on ne peut pas transmettre une intuition sans qu'elle soit passée par une certaine méthode qui vient régler. Alors c'est très important pour la transmettre, pour la transmission, mais la découverte. C'est ce qui fait comprendre qu'il y a des gens qui, toute leur vie, appliquent des méthodes, ils ne découvrent rien. Mais ils écrivent quand même de gros bouquins. Hein, c'est évident. Mais ils ne découvrent rien. Mais les méthodes sont... La machine fait toujours penser à... Quand on... L'ancienne chose, de broyer le café. Non? Alors quand il n'y a plus de grains de café, ça continue de tourner. Il n'y a plus de grains de café, il n'y a plus de contenu, il n'y a plus que la méthode. C'est extraordinaire. Ça devient une idole, la méthode. Et à partir de Descartes, c'est comme ça. Alors, il faut bien voir le cheminement, comment c'est venu, parce que les ancêtres, Henri de Gand, Octave, Descartes. Je crois que là, il y a un passage entre les deux. Ne dites pas hein, que Henri de Gand, c'est Octave. C'est une grosse bêtise. Hein. C'est une très grosse bêtise, parce que c'est très différent. Mais il permet le passage. Et c'est souvent ces choses-là qui sont les choses les plus importantes. Il permet le passage parce qu'il coupe la métaphysique de l'esprit et remet la métaphysique dans l'ordre du possible. Le jour où vous mettez la métaphysique dans l'ordre du possible, vous permettez à la logique de s'introduire en métaphysique comme souveraine. Il fallait donc faire passer la métaphysique au rang du possible pour montrer le lien entre le possible et le nécessaire, pour qu'à ce moment-là, le point de vue de la logique puisse passer. Je vous dirai un mot encore. Il y aurait la logique de Port-Royal, qui est intéressante. Je vous donnerai peut-être la définition, si vous voulez. Et puis, nous regarderons tout de suite le point de vue de Kant. Je serai rapide, je ne fais que noter les tournants. Parce que c'est important de voir ces tournants dans une histoire de la logique. Ces quelques remarques dans l'introduction sur les significations diverses que prenne la logique. Je voudrais que vous preniez conscience, c'est assez facile d'une certaine manière, et en même temps c'est difficile, comme toujours, ces introductions, elles demanderaient à la fois d'être beaucoup plus développées, et en même temps je ne veux pas que ça devienne tout le cours. Mais c'est important d'essayer de comprendre comment, de fait, ce qui a été au point de départ un organone, un outil de la pensée, l'art des arts, comme dira Aristote, comme dira saint Thomas. Donc, quand saint Thomas dit l'art des arts, ça ne veut pas dire du tout que ça doit être l'art qui commande tous les autres arts. C'est pas ça du tout. Hein. C'est une formalisation dans l'art, que ça pourrait se comprendre d'une autre manière. L'architectonique, c'est le principe de tous les arts. Et la logique, c'est l'art des arts. C'est intéressant de comparer les deux formules, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Architectonique, ça veut dire justement ce qui est la synthèse, si vous voulez, ce qui est le principe, ce qui serait du côté de la cause exemplaire de tous les arts. Tandis qu'au contraire, la logique, en tant que art des arts, c'est la formalisation que prend saint Thomas. C'est très net, hein, parce que c'est justement le point de vue de la direction. Alors, une direction qui n'est pas du tout un aspect de finalité, une direction qui est du côté, c'est ce qu'on nous verrons à propos de l'art et de la science, en tant que logique, une direction qui se fait par où l'intelligence a une certaine potentialité où elle est capable d'être déterminée. C'est toujours, l'art regarde la matière en tant qu'elle est capable d'être transformée. Ça, c'est propre de l'art. Ça, regarde la matière. Bien, l'intelligence peut être matière par rapport à sa propre réflexion sur elle-même. Il y a une autodirection de l'intelligence qui se fait par elle-même. Et cette autodirection de l'intelligence qui se fait par elle-même, c'est justement la logique en tant qu'art. Et là, ça veut dire art des arts, c'est-à-dire justement ce point de vue propre de l'intelligence qui prend conscience de sa fragilité, qui prend conscience de sa potentialité et qui est capable de saisir comment elle va pouvoir se diriger. C'est le propre, donc, de la logique. Nous avions vu comment, alors, avec Descartes, avec Occam d'abord, n'est-ce pas, le grand tournant, et puis Descartes ensuite, Bacon, la logique de Port-Royal. Alors, ce qui serait intéressant de voir dans la logique de Port-Royal, c'est qu'alors, très nettement, nous voyons la logique ou l'art de la pensée, n'est-ce pas ? C'est une logique qui est très secondaire, qui, au point de vue scientifique, elle n'est pas très, très intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle représente justement aussi, d'une certaine manière, une orientation nouvelle. Ça vient de plus en plus la logique des idées. Ça, je crois qu'il est important à souligner. Alors, allons très vite, hein, maintenant. Non pas que ça devient moins intéressant, mais ça fait entrer dans un problème extrêmement complexe. Prenez tout de suite le point de vue de Leibniz. Il semble lui aussi hanté par le même problème. Il cherchait une logique ou science générale. Et alors, c'est ça qui est très curieux à voir, c'est ce caractère de la logique comme science générale qui, en raison même de son universalité, va devenir comme la science première. Et donc, remplace la métaphysique. Alors, chez Leibniz, c'est intéressant à remarquer que là aussi, nous trouvons le primat du possible. Hein. Et alors, parce qu'il y a le primat du possible, on comprend comment le point de vue de l'universel peut devenir quelque chose de premier. Alors, il cherchait une logique ou science générale qui était en même temps un art d'inventer. Alors, vous trouvez les deux. Leibniz, c'est le dernier scolastique. Hein. On le sait bien. Pour comprendre Leibniz, il faut comprendre toute la pensée antérieure avant lui au point de vue scolastique. Et Leibniz reste très en dépendance de la scolastique. Il reste très en dépendance de la pensée qui s'est développée, si vous voulez, à partir de Occam et de Henri de Gand. Et alors, c'est ce souci de joindre le point de vue de la science et de l'art. Je tiens, déclare Leibniz, que l'invention de la forme du syllogisme, je vous cite cette parole parce qu'on attaque tellement les pauvres syllogismes, alors c'est intéressant de voir ce que dit Leibniz là-dessus, c'est quand même un homme intelligent, je déclare que l'invention des formes du syllogisme est une... des formes du syllogisme est une des plus belles de l'esprit humain et même une des plus considérables. Donc il considère que le point de vue du syllogisme donné par Aristote, c'est la grande invention de la raison. Alors on comprend comment, étant donné le rôle de la raison suffisante chez Leibniz, trouver à toute chose non seulement un antécédent rationnel, explicatif, mais un principe réel qui le rend nécessaire. Pour lui, le réel et le rationnel ne fait plus qu'un, et c'est pour ça que la logique est comme intégrée directement avec la métaphysique. Je n'insiste pas plus. Je vais insister un tout petit peu plus dans le problème de Kant pour montrer la destruction de la logique, si vous voulez, parce qu'au fond, je crois qu'on va assister à l'aspect de la logique qui va se changer, se muer en critique. Donc, au fond, de plus en plus, si vous voulez, la logique comme un organone disparaît. Et ça, je crois qu'il faut reconnaître, qu'il faut voir. Elle est, ou alors, vous voyez, ou la métaphysique est absorbée par la logique Occam, ou au contraire, la métaphysique absorbe la logique dans une métaphysique particulière, la métaphysique du possible. Alors, on peut appeler ça la métaphysique du possible ou la logique, ça revient au même. Alors essayons d'entrer rapidement, hein. Je ne veux pas vous faire un cours sur Kant, ce n'est pas mon rôle, et ce n'est pas la place de ce cours, mais situer la complexité du problème de la logique chez Kant, simplement ça. Alors je vous rappelle, hein, pour que vous voyez bien le problème de Kant, vous le connaissez tous un peu, alors c'est simplement un rappel rapide. Le problème central, l'intuition dominante, hein, toujours saisir. L'intuition dominante chez Leibniz, c'est le réel et le rationnel ne font qu'un, et donc c'est une métaphysique du possible. Je crois que c'est vraiment cela le point de vue de Leibniz. C'est la grande métaphysique du possible. Donc il va se terminer par le point de vue, on l'avait vu à propos des preuves d'existence de Dieu, par le problème de l'argument ontologique. Et l'argument ontologique est au cœur de toute sa pensée. Et c'est pour ça que si c'est une métaphysique du possible, le point de vue logique devient capital. On essaiera de comprendre ça au terme. Je ne veux pas le voir maintenant, mais en voyant l'être de raison, ce sera le grand problème, de voir le lien entre l'être de raison et le possible pour saisir comment, dès que la métaphysique devient une métaphysique du possible, la logique pratiquement remplace la métaphysique. Le problème central de la première critique chez Kant, c'est la possibilité d'une connaissance métaphysique. Possibilité d'une connaissance métaphysique. Condition pour une connaissance métaphysique. Le prolegomène à toute métaphysique future qui voudra se présenter comme science. Donc, voir, Kant ne supprime pas la métaphysique, mais il veut donner les possibilités de la métaphysique. Et donner les possibilités de la métaphysique, c'est justement le problème critique. Et le problème critique va intégrer la logique. Oui, c'est ça qu'il faut saisir. Alors, voir les liens entre logique et critique. Comment, de certaines manières, la logique transcendantale, c'est sa critique. L'absorption de la critique dans la critique, l'absorption de la logique dans la critique, comme il y a l'absorption de la logique dans la métaphysique du possible. C'est ça qu'elle disparaît. Sauf Boran, parlant hier de la logique, disait, d'une certaine manière, quand on regarde Kant et Hegel, il n'y a plus de logique. Et d'une autre manière, la logique prend tout. Alors, d'une certaine manière, la logique n'existe plus. Et c'est vrai, je crois qu'on peut le dire. Alors, première distinction, il faut toujours se rappeler ça, la première distinction à partir dans la philosophie de Kant, c'est la distinction que nous avions déjà trouvée chez Henri de Gand, puisque c'est Henri de Gand le premier qui donne cette distinction comme une distinction capitale. Vous voyez, Henri de Gand, Don Scott, Occam, il y a là une famille spirituelle, et puis vous trouvez Kant ensuite. La distinction entre le contingent et le nécessaire. Alors, c'est une distinction capitale en ce sens que c'est une distinction première sur laquelle tout le reste va reposer. Le contingent, l'empirique, c'est quelque chose de relatif. Et à partir du contingent, nous sommes dans le domaine du conditionnel. Et on ne pourra pas sortir du domaine du conditionnel. Donc c'est tout le domaine de ce que Henri de Gand disait, la physique, la philosophie de la nature. Et au fond, c'est ce que chez Kant, nous retrouverons. Nous retrouvons une possibilité de la philosophie de la nature parce qu'on reste dans le contingent. L'expérience nous donne le point de vue du contingent. C'est le point de vue de l'empirique. Tandis qu'au contraire, dès que vous êtes dans le nécessaire, vous êtes en face de la priori. Donc nous retrouvons les mêmes distinctions qu'Henri de Gand. La distinction a posteriori, la distinction a priori. Évidemment, ça va être digéré très différemment, mais c'est quand même intéressant de retrouver le même point de départ. Vous voyez, c'est important parce que ça fait comprendre tout de suite une direction de l'intelligence qui ne cherche plus les principes, mais qui cherche le nécessaire. Soyez très sensible à ça. Le nécessaire, c'est une manière d'être. C'est pas un principe. Donc, première distinction, le contingent et le nécessaire. Le nécessaire, il nous est donné dans l'universel et dans la priori. D'où toute la grande critique de Kant va être sur la question du jugement analytique et du jugement synthétique. Comprenez bien, hein, quand vous avez le point de vue analytique et synthétique, c'est une troisième division, je crois qu'il faut prendre c'est une seconde division au niveau du jugement analytique et synthétique. Et la première division, c'est contingent et nécessaire. Et c'est cette seconde division qui viendra ensuite, c'est ça ? Dans une philosophie, quand vous voulez entrer dans le domaine d'une philosophie, cherchez les divisions. Les divisions premières, c'est un moyen merveilleux de découvrir le point de vue des intuitions. Enfin, étant donné que la division est commune à toutes les philosophies. Vous n'avez pas une seule philosophie qui n'accepte pas la division. Alors c'est pour ça que c'est intéressant, c'est un procédé de l'intelligence divine. Et l'intelligence divine a envie d'une clarté, ça c'est évident. Alors c'est intéressant de voir quelles sont les divisions fondamentales. Nous poserons la question par rapport à Aristote, comme il faut se poser la question par rapport à Platon. Quelles sont les divisions fondamentales? Quelles sont les divisions qui, en quelque sorte, donnent la clé d'une philosophie? Je crois que quand vous avez la division première d'une philosophie, vous avez sa clé. Le passe-partout, qui vous permet après de voir les autres divisions. Donc, seconde division, jugement analytique et jugement synthétique. Je vous rappelle, hein, jugement analytique, le prédicat est inclus dans le sujet. Dans le principe d'identité. Tous les corps sont étendus. C'est un jugement analytique. Jugement synthétique, au contraire, le prédicat n'est pas contenu dans le sujet. Tous les corps sont pesants. C'est un jugement synthétique. Le jugement synthétique implique donc, nécessairement, pour pouvoir le faire, pour pouvoir attribuer le prédicat au sujet, une autre intelligence que celle du sujet. Dans le jugement analytique, je suis dans la priori et je suis merveilleusement dans la priori puisque l'intelligence du sujet me donne l'intelligence du prédicat. Et je prends le lien nécessité entre les deux. Alors j'ai immédiatement le lien entre les deux. Tandis que dans le jugement synthétique, je n'ai pas le lien. Donc pour que le jugement synthétique puisse se faire, il faut normalement un apport autre. C'est pour ça qu'il dira que les jugements synthétiques sont des jugements extensifs, tandis que les jugements analytiques sont explicatifs. On explique dans le jugement analytique, et on explique les deux parties. C'est une division, tout simplement. Une division qui explique. Tandis que dans le jugement synthétique, ce n'est pas une division, c'est un apport. Et c'est très important de bien saisir ça. Parce qu'on touche à quelque chose de fondamental au point de vue de la pensée, au point de vue du jugement. Le jugement synthétique est un jugement extensif qui fait progresser. Mais il y a deux types de jugement synthétique. Alors c'est là où ça devient beaucoup plus difficile à bien saisir. Hein. Le jugement synthétique a posteriori, ça c'est très facile. Vous avez l'expérience. L'expérience qui vous donne justement la force, qui vous permet, étant donné que vous avez la connaissance du sujet, de voir comment cet attribut va se donner à ce sujet. C'est beaucoup plus difficile, et c'est là la grosse question, et c'est là la question de Kant. Les jugements synthétiques a priori, qui seraient les principes métaphysiques, qui seraient les principes propres philosophiques. Vous voyez comment il juge les principes propres philosophiques. Les principes propres philosophiques ne peuvent être que des jugements synthétiques a priori. Ce n'est pas des jugements uniquement d'identité, dans lesquels le prédicat et le point de vue du sujet sont identiques et techniques, mais il y a quelque chose. Prenez un jugement, si vous voulez, pour avoir dans la tête un principe philosophique, disons. Mais quand vous dites, par exemple, que la substance est la cause selon la forme de ce qui est, expliquez ça dans la perspective kantienne. Ça ne peut s'expliquer, alors vous allez me dire, ce qui est implique l'expérience. Donc, ce serait un jugement qui reviendrait à l'expérience. Mais si vous prenez la substance est un principe selon la forme de ce qui est pris non plus le contingent, mais l'être universel, ce serait donc un a priori, ce serait donc un jugement synthétique a priori. Tout ce qui arrive est à une cause, c'est l'exemple qu'il donne. Tout ce qui arrive a une cause. Eh bien, de fait, on peut dire que le problème général de la critique se pose de cette manière, comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles? Si les jugements a priori synthétiques sont possibles, il peut y avoir une philosophie spéculative. Si les jugements synthétiques a priori sont possibles, il ne peut pas y avoir de philosophie spéculative. Ça, c'est le nœud. Hein. C'est important de voir où se situe ce nœud. Alors maintenant, essayons d'entrer dans ce qu'il entend par le point de vue de la logique. Rappelons-nous, la métaphysique, pour lui, c'est la tendance naturelle de l'esprit, de la raison, mais cette tendance naturelle, donc il y a un poids naturel, il reprend la parole d'Aristote, il est dans le sens d'Aristote, tous les hommes désirent connaître. Aristote commence comme ça sa philosophie première, tous les hommes désirent connaître. Donc la métaphysique et la philosophie, c'est un désir naturel. Si vous faites de la philosophie, c'est un désir naturel que vous avez en vous. C'est pour ça que c'est délectable. Dans la mesure même où vous comprenez, c'est délectable. Immédiatement, vous vous délectez en philosophie, parce que c'est ce désir naturel qui s'accomplit en vous. Alors, Kant reconnaît tout à fait, la métaphysique, c'est une tendance naturelle de l'esprit. Mais elle ne pourra devenir une science. Et c'est là le point de vue. Et c'est là où va intervenir la logique. Et c'est là où va intervenir la critique, vous voyez. Si Kant disait comme Claude Bernard, la métaphysique, c'est du sentiment. Il y a la science expérimentale et puis il y a la métaphysique. La métaphysique doit exister, il ne faut pas la nier, mais c'est du sentiment. Le sentiment, c'est ce désir naturel de l'esprit. Ce désir naturel de l'esprit, c'est du sentiment. Ce qui est intéressant, c'est de voir, est-ce que la métaphysique peut-être est une science? Vous voyez, c'est le même problème qu'Aristote. C'est ça qui est intéressant à voir. C'est vu dans une perspective tout à fait différente, mais c'est quand même le même problème. Là, on touche un problème de l'intelligence humaine qui va très loin. Est-ce que l'intelligence humaine peut arriver à une connaissance scientifique au niveau de la philosophie et de la métaphysique? Alors, Kant dit ceci, elle ne pourra devenir une science qu'à condition d'être précédée d'une critique. Évidemment, Aristote a jamais. Et vous voyez là, l'art prise de la position de Descartes, mais alors avec beaucoup plus d'acuité, que Descartes est un naïf, sans voulant être, il se mettre dans le but qu'il est un naïf. Il est d'une naïveté prodigieuse, Descartes, c'est sûr. Tandis que Kant n'est pas d'une naïveté prodigieuse. C'est pas tout à fait le même caractère, hein? Il y a deux points de vue assez différents. Mais il considère que justement on ne pourra arriver à une métaphysique comme science qu'à partir d'une critique. Celle-ci est une propédeutique, les prolégomènes de la pensée, de l'esprit. Il faut savoir le conditionnement de l'intelligence humaine pour voir si l'intelligence humaine peut arriver à une métaphysique. Si je ne le sais pas, je serai justement devant quelque chose qui risque d'être imaginatif. Voyez la peur de Descartes. Descartes avait une peur énorme que le mauvais génie, c'est l'imaginaire, hein, depuis les psychanalystes. Le mauvais génie, c'est l'imaginaire. Et donc, on peut dire, parce que Descartes restait encore avec un mythe du mauvais génie, alors le mauvais génie arrive à transformer la pensée et nous fait croire qu'elle est une pensée métaphysique. Et le mauvais génie, on n'arrive pas à le détester. Et c'est pour ça qu'il voulait la méthode du doute. Il avait peur. Il y a la même chose ici, il y a la peur de l'erreur, c'est très curieux ça. La peur de se tromper. La peur de se tromper, c'est que l'intelligence humaine se replie sur elle-même. Et j'allais dire, parce que je prends une image si vous voulez. La peur de se tromper, c'est que l'intelligence humaine étant capable de réfléchir sur elle-même, l'intelligence humaine va réfléchir sur elle-même en levant les ponts-levis comme un château fort. Nous avons contact avec le réel, avec le monde physique extérieur à nous, par nos sens. Nous avons ce contact. Kant le reconnaît tout à fait. Il n'y a pas du tout le réalisme. À ce point de vue-là, on peut dire que Kant reste un réaliste, au point de vue ontologique, au point de vue du nous-mêmes, il ne le nie pas du tout. Mais c'est très dangereux, ce contact avec le réel. Il faut d'abord connaître parfaitement le mécanisme de l'intelligence humaine. Le mécanisme de l'entendement. Si je ne connais pas parfaitement le mécanisme de l'entendement, je risquerai tout le temps de me laisser prendre. C'est séduire. La séduction esthétique. N'est-ce pas? La séduction esthétique est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est vrai que quand tu as très très fort senti, alors il s'agit de comprendre le profondément comment l'intelligence humaine fonctionne. D'où ce repliement, d'où la critique. Et c'est le prolégomène. Elle cherche, je dis ça c'est pour que vous compreniez, c'est très humain Kant, vous savez, c'est très très humain, ça paraît très inhumain, et pourtant c'est très humain, parce que ça c'est, la peur est toujours une chose très humaine, hein. C'est la famille de tous les gens qui ont peur, et la famille de tous les gens qui ont peur au niveau de l'intelligence, qui veulent à tout prix la science, mais qui ont peur, ça commence avec Descartes, et alors il y a vraiment ce point de vue qui est chez lui très fort, et c'est pour ça qu'il va serrer si fort tous les verrous. Quand on a peur, on ferme toutes les portes, et on met tous les verrous, et on essaie de voir tout ce qui est là pour empêcher toutes les fuites. Alors, la critique, elle va chercher les sources et les limites de la connaissance a priori. Où je peux être certain, où je parle avec certitude, le désir de Descartes. Son objet propre, donc la critique, son objet propre, la raison en tant qu'elle juge a priori de la nature des choses. Pour résoudre ce problème, alors c'est là où ça commence à devenir un peu plus complexe, pour résoudre ce problème, il faut prendre comme méthode une analyse transcendantale. Et au fond, tout le but de Kant, ce sera justement d'arriver à cette analyse transcendantale, à la dialectique transcendantale, vous allez voir progressivement. Alors comprenons bien, je dis ça pour les commençants, parce que pour les commençants, le mot transcendantal est un mot terrible. Hein. Quand vous entendez quelqu'un employer le mot transcendantal, demandez-lui tout de suite à quel niveau il se place. Alors je vous rappelle ici tout de suite pour que votre dictionnaire philosophique, hein, faites-vous votre petit dictionnaire philosophique, dictionnaire d'Aristote, de Saint Thomas, dictionnaire des modernes. C'est très important de ne pas... Parce que si vous n'avez pas ça, vous brouillez, vous allez tout brouiller et vous n'y comprenez rien du tout. Alors, le transcendantal est un de ces mots qui est très important à bien saisir dans ce que représente ce qu'il y a de particulier. Transcendantal s'oppose à transcendant. C'est pas ça. Transcendantal ne se rapporte plus à l'être. Quand on parle chez saint Thomas des transcendantaux, les transcendantaux chez saint Thomas, du reste là on en discute même parmi les communs, mais c'est pour ça que c'est pas si commode que ça. Les transcendantaux chez saint Thomas se rapportent à la ratio empty, à la ratio boni. Donc, il faut se rappeler ça. La ratio boni, la raison du bien, se rattache directement et immédiatement à la ratio empty, comme la ratio viri. Il y a un rattachement direct de la ratio boni à la ratio empty, et c'est pour ça qu'on dit que la raison du bien est transcendantale. Elle est transcendantale parce que la raison de bien est convertible avec la raison d'être. Quand on dit que c'est convertible avec la raison d'être, ça veut dire que ça a même extension et même compréhension. C'est au niveau des rationnels, c'est au niveau de ce qui est. Ce n'est pas au niveau absolument métaphysique, c'est au niveau des rationnels. Donc transcendantale. Les transcendantaux veulent dire tout simplement les premières raisons, c'est difficile de traduire les rationnels, très difficile. Je crois qu'on peut dire la ratio, le contenu intelligible. C'est le contenu intelligible des rationnels. Ce n'est pas purement subjectif, hein, ce n'est pas concept. Ne traduisez pas. Certains l'ont conduit comme ça. Je ne crois pas du tout que c'est ça pour saint Thomas. Ce n'est pas du tout le contraire. C'est le contenu intelligible qui, en quelque sorte, ou notre intelligence physique, ce qui est. Alors, c'est ce contenu intelligible dernier. Alors, c'est rationnel, c'est quand même au niveau de l'intelligibilité. Ce n'est pas au niveau de ce qui est la manière dont il existe. Quand vous parlez de la rationalité, vous impliquez nécessairement une réduplication sur l'être. Vous pourriez dire que la ratio empty, c'est l'être en tant qu'être. L'être en tant qu'être, c'est-à-dire le contenu intelligible que mon intelligence est capable de saisir dans les réalités qui existent. Alors c'est ce contenu intelligible que l'intelligence est capable de saisir pour ce qui est. Mais ce n'est pas ce qui est. Ce qui est n'est pas la ratio empty. La ratio empty est contenue dans ce qui est. C'est difficile à bien préciser, c'est là on voit très bien combien c'est difficile, dès que l'intelligence est en cause, de bien voir le niveau exact de ce que représente ce qui est dans le jugement d'existence et la ratio empty, le contenu intelligible que l'intelligence est capable de saisir dans la réalité qui existe. Eh bien, les transcendantaux ne sont pas au niveau des réalités qui existent puisque ces réalités sont contingentes. Ces réalités sont limitées. Mais les transcendantaux sont au niveau des rationnels. Ça, c'est très net. Regardez dans saint Thomas, le grand lieu sur lequel je vais tout le temps venir. Le délire passé, section 1, article 1. Et prenez la nouvelle édition, qui est l'édition critique, parce qu'il y a quelques petites erreurs dans la définition de Marius. Alors, question 1, et comme c'est un lieu très important, c'est un lieu capital, de bien voir comment les saint Thomas situe les rationnels. Alors, c'est ça qu'on appelle les transcendantaux. Le mot transcendantal, c'est Kant, c'est tout à fait autre chose. Possibilité ou usage a priori de la connaissance. Transcendantal se rapporte à la connaissance et à la connaissance a priori. Il y a quelque chose de commun, hein. Faut pas dire que c'est tout à fait étranger. Presque toujours comme ça, c'est ça qui est intéressant dans le glissement des mots. Parce que dans le glissement des mots, on voit toujours quelque chose qui est commun. Autrement, on aurait employé un autre mot. Alors, transcendantal s'oppose à empirique. L'empirique est contingent. Le transcendantal est nécessaire. Le transcendantal implique donc une attitude réflexive, exactement comme pour les rationnels. Puisque la réalité contingente n'est pas transcendantale, vous n'allez pas voir le champ en disant « il est transcendantal ». Non. Le chat, il est, et il existe d'une façon limitée. Mais s'il est, mon intelligence peut saisir dans le chat la ratio N6. Et quand l'intelligence saisit la ratio N6, elle saisit quelque chose de transcendantal. Parce que, justement, c'est au-delà de ce mode empirique. Donc, c'est dans l'intelligibilité qu'apparaît le transcendantal. Chez Kant, c'est dans la forme a priori qu'apparaît le transcendantal. Alors, quelle différence y a-t-il entre les deux? C'est ça qui est intéressant à voir. Hein? Quelle différence y a-t-il entre les deux? Que des deux côtés, c'est de l'intelligible. Mais d'un côté, c'est l'intelligible dans son fondement objectif, et de l'autre, c'est dans l'intelligible dans son fondement de la connaissance. Je ne dis pas subjectif, hein? C'est très contraire à Kant. Mais dans le fondement de la connaissance. Transcendantal implique immédiatement le point de vue de la connaissance. Usage a priori de la connaissance. Tandis que ratio N6 chez Saint Thomas, transcendantaux chez Saint Thomas, n'implique pas le. Implique la connaissance, présuppose la connaissance. Mais ce n'est pas cela qu'on regarde, c'est le contenu intelligible qui détermine la connaissance, qui spécifie la connaissance. La ratio N6 présuppose la connaissance. C'est évident, parce qu'avant la connaissance, il y a des réalités qui existent. Donc des deux côtés, ça présuppose la connaissance. Mais la différence, c'est que transcendantal chez Kant est directement relié à la connaissance. Chez Saint Thomas, la connaissance est présupposée. Mais n'est pas directement, c'est relié à l'objet. C'est relié au contenu intelligible. Il faut arriver petit à petit à saisir ces deux aspects. C'est important parce que c'est une notion capitale chez Kant, la notion transcendantale, et chez Saint Thomas, les transcendantaux jouent un rôle très important. Et alors c'est important de voir là deux affrontements. Donc, comprenons. Pour résoudre ce problème de la critique, il faut prendre comme méthode une analyse transcendantale. Alors, transcendantale, c'est la connaissance qui s'occupe de nos concepts, et c'est ça le point de vue du transcendantal, qui s'occupe de nos concepts a priori et des objets. Elle est immanente, cependant. Vous voyez, le transcendantal est immanent. Tandis que, simplement, le transcendantal n'est jamais immanent. Et on comprend que c'est la connaissance a priori, et la connaissance a priori est immanente. Vous possédez au-dedans de vous-même une connaissance transcendantale. Tandis que Saint Thomas ne dira jamais que vous possédez au-dedans de vous-même la ratio N6. Vous la connaissez, vous la saisissez, mais la ratio N6 c'est toujours quelque chose qui demande un dépassement. Donc elle est immanente. C'est les lois internes de l'esprit, les conditions de la connaissance comme telle. Donc ça désigne les possibilités de la connaissance et son usage a priori. Donc, alors essayons maintenant de voir comment va apparaître le problème de la logique chez Kant, à l'intérieur même de cette critique. On a vu comment la métaphysique présupposait la critique, et on va voir maintenant comment dans la critique apparaît la logique. Et comment on arrive au problème propre de la logique. Alors je vous renvoie donc dans la critique de la raison pure, c'est la deuxième partie, la logique transcendantale. Et la logique transcendantale, à ce point de vue-là, se situe entre le point de vue de l'esthétique transcendantale et de la dialectique transcendantale. Alors à première vue, on dirait que c'est un médium entre les deux. Vous avez l'esthétique transcendantale et puis vous avez la dialectique transcendantale. Et puis la logique transcendantale est entre les deux. Mais en réalité, vous allez voir que la logique transcendantale va impliquer la dialectique transcendantale. Ça, c'est très curieux. Et donc, on va voir comment la logique transcendantale va être identifiée avec la critique. Alors, regardons, essayons de bien voir. Je ne dis pas que la logique c'est quand s'identifie avec la critique, mais la partie principale de la logique va s'identifier avec la critique, c'est-à-dire la logique transcendantale. Donc, il va commencer par nous dire que la logique peut être envisagée sur deux points de vue. Alors là, il faut prendre les divisions. Si vous ne prenez pas les divisions, vous êtes complètement fichu, vous ne comprendrez rien du tout. Ça, c'est Kant, ça demande hein, de le suivre C'est une division constante. Hein. Alors, la logique peut être envisagée sur deux points de vue. Ou comme logique de l'usage général, ou comme logique de l'usage particulier de l'entendement. Donc, tout de suite, une grande division. Alors, c'est intéressant. Général, usage. Hein, prendre l'usage. Général ou l'usage particulier de l'entendement. La première, c'est toujours la première qui nous intéresse. Vous allez voir, c'est toujours la première. La seconde, on va la laisser tomber. Alors, l'usage particulier d'entendement,
laissons tomber les applications derrière.
C'est pas ça qui intéresse
Kant dans sa critique.
Tant
vers l'universel.
Tension
vers l'universel.
Et puis, au contraire, l'empirique, c'est l'application.
La première
contient les règles absolument nécessaires de la pensée.
Vous voyez comme c'est intéressant par rapport à Descartes.
Pour trouver la même définition.
La première, donc la logique de l'usage général
de l'entendement.
La première contient les règles absolument nécessaires de la pensée, dans lesquelles il ne peut y avoir aucun usage de l'entendement.
Et concerne par conséquent l'entendement.
Abstraction faite de la diversité des objets auxquels il peut être appliqué.
Donc on regarde l'entendement dans son usage indépendamment de toutes les applications.
Il faut d'abord regarder les choses chez les gens.
Très simple, et après regarder chez les gens.